Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Actualité scientifique.
La microbiologie, la chimie, la science en général.
Avec Marc Hamilton, microbiologiste.
OK, à 5h08, le grand boss Philippe, il est dans son auto, sport, puis il a une belle vision sur le fleuve depuis 45 minutes. Oui, il dit que ça avance pas. Il dit, je vous écoute, les gars, vous dites que ça roule bien, mais c'est parce que c'est quasiment isolé, hein, c'est isolé.
Il est à la seule place où ça ne roule pas bien, en fait, à Québec. Là, c'est sur Champlain, à la hauteur du quai des Cageux. Il semble avoir des travaux, là, selon ce que je vois. Puis ces travaux-là, ben, causent pas mal de ralentissement. Ça part de la côte de Sillery, puis c'est jamais raide jusqu'au quai des Cageux. Mais inquiète-toi pas, fais le coup passé le quai des Cageux, là, ça va être vert, tu vas rouler le gaz au bout.
Mais je l'ai vu, moi, ils ont fait une méga crevasse, là. Ça a quasiment deux longueurs d'auto.
Ah.
C'est un trou de... tellement, je voyais juste le dessus de la tête des travailleurs quand je m'en venais. Tout à l'heure, je ne sais pas s'ils ont été cherchés là. Ils ont trouvé un lingot d'or?
D'après moi, ils ont trouvé le tombeau à Samuel de Champlain.
C'est peut-être
il était sur le boulevard.
T'imagines-tu, là? T'imagines-tu quand on va faire le tunnel, ce qu'on va trouver?
Oh.
On va être arrêté à longueur d'année.
On n'est pas sorti du bois.
C'est ça. Monsieur Marc.
Yes!
Pas de Samuel Champlain quand tu finiras. Je ne sais pas, des fois, je sais que tu aimes ça aller voir le fleuve, toi aussi, là,
ah
mais
oui?
Évite ce secteur-là.
Non, moi, je reste plus au nord.
Ben je le sais, mais tu sais, des fois, tu aimes ça, toi, tes véhicules, tes
oui,
bolides,
mais...
là. Tu vas sur Champlain, là, ah, puis là, tu fais ton frais un petit peu sur le bord du fleuve.
Ouais, mais... Tu sais, quand t'as des vieilles voitures, puis que tu t'en vas dans le trafic,
pas le fun,
la voiture aime pas ça, parce que c'est chaud au feu. Quand t'as un vieux Dodge Charger 69, puis que l'été, il fait 25-30 degrés, puis t'es cul à cul dans le trafic, là. T'aimes pas ça, puis le char, il aime pas ça. Puis toi, il fait chaud en dedans, parce que t'as pas d'air climatisé. Fait que c'est sûr que quand t'as des voitures comme ça, tu vas toujours trouver une voie d'évitement pour éviter d'être pogné dans le trafic, parce que c'est pas le fun pour personne. En tout cas. Puis en plus, ben, ça sent le gaz. Hein? Fait que quand t'es dans le trafic, tout le monde te dit « Oh, ça sent le gaz ici, là. Ça sent le gaz, pas de catalyseur. »
Fait que si le boss Philippe avait pris juste 2 secondes pour aller voir un petit peu la map, il serait pas là. Parce que c'est vert partout.
Ben, c'est sûr que quand on prend le pont, il n'y a pas grand tissu. Hein? Faut que tu le prennes.
Oui, parce que si c'est pas Champlain, tu le prends sur Boulevard Laurier, puis ça ressemble à Bagdad.
Oui, Laurier aussi.
C'est un champ de mine.
Même combat.
C'est le même combat.
C'est par les autoroutes que ça va bien.
Ben oui. Même vendredi, il y a 2 semaines, je suis passé par Laurier. Je me suis dit, vendredi, Laurier, d'habitude, ça sort bien. Non, non, c'était...
Incroyable.
Incroyable.
Bah, c'est pas fini, imagine-toi, l'été commence. Là, fait que... Mais c'est comique à Québec. J'ai remarqué ça, moi. Il n'y a pas une journée pareille dans le temps de trafic. Il y a des journées où est-ce que, Colin, ça circule bien. Peut-être qu'il y a des journées, quand c'est du télétravail, là, ben on dirait, oh, tu t'en rends compte, aujourd'hui, c'est du télétravail. Le lendemain, on dirait que tout le monde rentre travailler. Il y a du trafic partout, matin, midi, soir. Fait que, tu sais, on peut se rendre compte que, généralement, le mardi, là, aujourd'hui, c'est quand même lundi, il y avait beaucoup de monde. Mais le mardi, c'est pire encore.
Ah, demain puis mercredi, ça va être pire.
Puis jeudi, vendredi, ça circule bien. C'est curieux.
Là, la semaine passée, les Américains, ils ont dit un gros porteur, là, un avion, ils ont dit toi, t'atterris pas aux États-Unis.
Oui.
Parce qu'il y avait un Africain, je pense, hein, c'est ça? C'est
ben, quelqu'un qui. Ouais, un Africain qui a séjourné au Congo.
Au Congo. Ils ont dit tu vas atterrir au Canada.
Oui.
Mais là, il peut-tu s'en venir, lui, au Canada ou peu importe, est-ce que l'Ebola qui commence, là. C'est une grosse affaire comme la COVID qui s'en vient ou ça n'a aucun lien, aucun rapport?
Ça, pour rassurer le monde, ça n'a aucun lien avec une maladie telle la COVID ou l'influenza. Avant de parler de l'avion, je vais juste vous expliquer la différence entre l'Ebola puis mettons, la COVID que tout le monde connaît maintenant. C'est que c'est deux virus complètement différents. Parce que la COVID, on sait que ça s'attrape par micro-gouttelettes. Quand tu éternues, quand tu tousses, donc tout ce qui sort de tes poumons, qui sort de ta bouche, tu n'as dans tes mains, les gens s'infectaient de même. Je pense qu'on connaît bien la chanson, tout le monde sait comment on s'est infecté la COVID. Tandis que l'Ebola, ce n'est pas une maladie respiratoire. Ce n'est pas une maladie qui s'attrape parce qu'on éternue, parce qu'on va envoyer des micro-gouttelettes dans l'air. C'est excessivement contagieux. Cependant, ça s'attrape en contact avec les liquides biologiques d'une personne infectée. Les liquides biologiques, bon, c'est les vomissures. Ça va être les larmes, ça va être les excréments, ça va être l'urine, ça va être le sperme. Donc,
les fluides.
Tout ce qui est fluide hors poumon, si tu veux, là, en tant que tel, là, autre que tes poumons. Et c'est ce qui fait que le Canada, pour l'instant, ne voit pas d'épidémie parce qu'il se dit, c'est pas comme quelqu'un qui est dans un avion puis qui se met à éternuer, puis que là, tout le monde respire son nuage de micro-gouttelettes, puis tout le monde devient porteur de la maladie. Pour pouvoir attraper la boule-là, il faut que tu sois en contact avec une personne porteuse, puis que tu rentres en contact avec ses fluides, dont son sang, les vomissures, les excréments, l'urine, les larmes, les spermatozoïdes. Et à ce moment-là, quand tu le l'as sous tes mains, puis que là, tu t'y mets dans la bouche ou tu te frottes les yeux pour que ça rentre ou par une coupure. Donc, c'est sûr que si tu prends ta main qui n'a aucune coupure dessus, puis que tu touches quelqu'un qui est porteur ou tu touches, exemple, le vomissure, tu ne l'attraperas pas parce que le virus ne passera pas au travers de ta main parce que la peau résiste au virus. Par contre, si tu as une gerçure, une coupure ouverte ou je sais pas, tu fais de l'eczéma, là, il y a un risque. Il y a un risque, t'es cuit.
Hey, c'est taux de létalité.
Il est assez élevé.
50%,
puis.
Tu veux pas ça dans ta vie?
C'est, puis même, oui, non, tu veux pas ça, c'est une chance sur deux, mais c'est très souffrant là, quand tu l'as, la maladie. Là. Donc, pour en venir à ton avion, qui, après une semaine de ça, ils ont reviré de bord. Les États-Unis, eux autres, ils ont fait une règle. Le CDC, là, le Center Disease of Control Center's Disease, ils ont dit, écoutez, nous autres, on ne veut pas que cette souche, le Bundibugyo, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs souches d'Ebola, celle-là, c'en est une.
Bugyo,
en tout cas.
Bugyo.
Bundibugyo, en tout cas. C'est cool. Ouais. Puis celle-là, en tant que telle... ben, comme tu dis, elle n'a pas de vaccin, puis il n'y a pas de traitement, il y a un taux de mortalité de 50 %. Puis là, les Américains ont dit, il ne faut pas que ça rentre ici, ça. Et là, ils ont dit, premièrement, il va y avoir 3 aéroports seulement qu'on va accepter des gens qui ont séjourné dans les 21 derniers jours au Congo, entre autres. Puis c'est l'aéroport de Washington, un des aéroports de Washington, un aéroport de Houston, puis un d'Atlanta. Et pour pouvoir être accepté aux États-Unis, OK, il faut que tu sois un citoyen américain. Donc, si tu es un citoyen américain qui veut rentrer chez eux, qui a séjourné, exemple, au Congo, tu peux, il faut que tu déclares que tu étais là. Les gens, avant de partir, vont dire que tu vas aux États-Unis, tu vas atterrir à un de ces trois avions-là, tu as été déclaré, mais dans l'avion, il n'y a pas rien de spécial. Tu n'es pas isolé dans l'avion, tu prends l'avion. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une personne, il y a une semaine et demie, je crois, elle s'en allait aux États-Unis et ils ont su en plein vol que cette personne-là, c'était pas un Américain. C'était un Africain qui rentrait aux États-Unis. Puis il y en a un qui s'est réveillé dans la gang. Il dit, oh, il était un peu. Comment il a fait pour prendre l'avion, lui? Il y a des règles très strictes qui interdisent l'entrée d'un étranger non américain qui a séjourné là. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas atterrir, on n'a pas l'autorisation parce que c'est rien que des citoyens américains, puis il y a 3 aéroports. Fait qu'on dit, bon, on va s'en aller au Canada. Au Canada, il n'y en a pas de règles. Présentement, au Canada, peu importe qui arrive du
on
Congo,
prend,
du Uganda,
tout ce qui
n'importe
arrive.
Qui. Les autres, ils vont dire, ben c'est une autodéclaration. Donc, si je n'ai pas de symptômes, parce que pour être porteur de la maladie, il faut que tu aies des symptômes. Donc, si tu n'as pas de symptômes quand tu rentres dans l'avion, je vous les dirai c'est quoi les symptômes tantôt, ben tu te prends dans l'avion, quand tu atterris, ben tu dis tant que tu n'as pas de symptômes, tu t'en vas chez vous, hey, puis tu es sous surveillance.
Ouais, mais là, tu peux les avoir dans 15 ans, les symptômes.
C'est ça, mais tant que tu n'as pas de symptômes...
Moi, tu te gardes en 40... Ben,
mais il reste que des personnes, tu dois être éduqué à savoir c'est ouais. quoi les symptômes et tout ça. J'espère bien quelqu'un qui vient du Congo, là-bas, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent passer à TV, faites attention à ces choses-là. Mais il reste que tant que tu n'as pas de symptômes, tu n'es pas... Une personne asymptomatique n'est pas contagieuse. Tandis que la COVID, quelqu'un qui était asymptomatique pouvait être contagieux. Ce qui fait que tu te mettais en quarantaine sans raison parce que j'ai été à côté quand il l'avait. Moi, il faut que je sois 2 semaines à la maison sans bouger au cas où que ça se déclare. Là, dans ce cas-là, personne arrive.
Je te ramène le fait suivant. Si tes symptômes, si tu l'as, tu es porteur de l'Ebola,
oui.
mais tes symptômes vont se développer dans 12 heures.
Oui.
On t'envoie à la maison.
Oui.
Là, tu vas être avec 3-4 personnes. Puis ça peut arriver que tu le donnes à 3-4 personnes.
C'est sûr qu'une personne... Puis ça, c'était mon autre affaire. C'est une bonne question que tu poses. Les gens qui arrivent de là-bas, sont sous surveillance dans le sens que quand ils arrivent au Canada, il y a quand même des appels quotidiens qui est fait à cette personne-là pour le contrôle de l'asymptomatique s'il se développe quelque chose d'autre. Quelqu'un qui arrive au Canada, il va avoir quand même quelqu'un qui va les prendre en charge disant « Tu rentres au Canada. Par contre, tu dois à tous les jours déclarer que tu n'as pas de symptômes. » La même chose que quelqu'un qui arrive aux États-Unis. Donc, tu as une petite surveillance qui fait en sorte que fais ce que tu veux. Dès que tu as des symptômes, il faut que tu les déclares.
Il n'y a pas de marqueur dans le sang ou quelque chose qui pourrait être détecté? Ou...
Pas tant. Okay. C'est quelque chose qui, lorsque tu es asymptomatique, il n'y a pas grande méthode de dépistage. C'est un peu comme, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on parlait de l'antivirus. Là. Ouais. C'est la même affaire. C'est, si tu n'as pas de symptômes, tu es peu dépistable. Dès que tu as des symptômes, boum, et là, ça va cesser fulgurant. Et là, tu deviens, oui, avec les PCR connus, ces choses-là. Puis les symptômes maintenant, à quoi ça ressemble?
Oui, puis c'est-tu une question d'hygiène? Pourquoi ça explose, ce virus-là? Là?
Bon, le virus en tant
au Congo,
que tel...
Au Congo, pourquoi? Là?
Ben, au Congo, bon, faut penser que ce virus-là, bien souvent, il origine encore d'un animal. C'est une chauve-souris frugivore, donc une chauve-souris qui mange essentiellement des fruits. Elle est un porteur sain. Et là-bas, bien souvent, les gens vont être en contact avec des chauves-souris, peu importe. Puis là, la chauve-souris va être en contact avec l'être humain. Il va transmettre via ses liquides, via ses excréments, peu importe. Là. Et l'être humain va attraper la maladie en tant que telle, qui bien souvent va être de la chauve-souris. Si ce n'est pas de la chauve-souris, la chauve-souris peut transmettre l'Ebola à d'autres types d'animaux.
On n'est pas sorti du bois là-dessus.
Ah, bah ouais.
La chauve-souris, elle va vivre avec, puis elle va dire, j'ai pas de problème, je peux vivre toute ma vie avec ça. Je suis un porteur sain. D'ailleurs, la chauve-souris est un des animaux dont le système immunitaire est le plus sophistiqué dans le monde. C'est incroyable comment une chauve-souris peut être porteur de maladie sans nécessairement avoir aucun symptôme. Et il y a deux types d'animaux principaux en Afrique qui peuvent attraper l'Ebola et la transmettre à l'être humain. Un, c'est les singes, les chimpanzés, les gorilles. Et l'autre, c'est l'antilope, une espèce de chevreuil du coin.
Ben oui, ben oui.
Et bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que si ce n'est pas la chauve-souris qui infecte l'être humain, ça va être la chauve-souris qui infecte l'antilope et l'antilope, l'être humain le mange. Et bien souvent, quand ils vont tuer l'antilope, ben ils vont jouer avec le sang de l'antilope, ils vont le débiter. Et là, ils rentrent en contact avec des liquides biologiques de l'antilope qui est très contagieux. Et c'est comme ça que la maladie va s'attraper à l'être humain.
Ou même en mangeant des fruits, j'imagine, qui vont être en contact avec des excréments de chauve-souris.
Ben
ou
oui,
comme ça,
et encore là, c'est une bonne question que tu poses. Parce que oui, effectivement, s'il y a des excréments, de la vomissure sur le fruit, puis tu le rinces pas au préalable, etc., tu nettoies pas, ben, j'espère que ça va être apparent.
Ça, c'est important. Il y a plein de parasites qu'on peut attraper là, avec les fruits et légumes qui viennent d'ailleurs.
C'est sûr. Présentement, je ne ferais pas venir des fruits et légumes du Congo pour ces raisons-là. Mais
idéalement, là, je ne suis pas raciste, là, mais des gens en provenance du Congo, on n'en veut pas tant que ça. Là.
Ben, actuellement, ils sont à risque là, parce qu'ils peuvent être en contact, surtout s'ils sont dans le nord-est du Congo. C'est là où est-ce que l'épidémie, je pense, c'est Itagou, quelque chose
Là, ils parlent de 10 pays. Là.
Ben là, c'est parce que l'Ouganda et tous les pays avoisinants, c'est sûr qu'ils sont à risque. Présentement, il y a des signaux d'alerte. Et le problème qu'on a là-bas, c'est que c'est pas tout le monde qui déclare qu'ils ont la maladie. Parce que c'est pas comme ici où est-ce qu'il y a des hôpitaux partout, où les gens vont se traiter eux-mêmes, vont mourir sans que nécessairement les gens aient déclaré la maladie. Fait qu'ils disent, y a-tu 100, 200, 300 personnes décédées, 900 porteurs. Donc, les statistiques quotidiennes, c'est pas juste comme si on avait une épidémie ici. Donc, on sait qu'il y a un foyer d'éclosion là-bas qui s'installe. Et comme je dis, le virus en tant que tel, une de ses forces, c'est que c'est un virus qui vit longtemps en dehors de l'être humain. De sorte qu'une personne qui va avoir des vomissures, puis il va en avoir sur un drap, par exemple, ou ses excréments, les draps sont aussi contagieux, restent contagieux plusieurs jours, voire des semaines. Et à ce moment-là, c'est pour ça que si les gens disent, « Ouais, là, j'ai manipulé les draps d'une personne infectée, mais là, il faut dénaturer les draps, les désinfecter, voire même les brûler, puisque c'est pas tout le monde qui a accès à de l'eau de Javel puis nettoyer ça. Bien souvent, les gens vont brûler. Et même, lorsqu'on fait des rituels de gens qui sont décédés de l'Ebola, c'est compliqué, parce que la personne qui est décédée est porteuse de maladie longtemps.
Donc, il faut la brûler?
Bien, idéalement, les gens, c'est ce qu'ils font. Bon, si tu ne peux pas la toucher, tu ne peux même quasiment pas la manipuler ou faire des obsèques.
Ils ont comme des scaphandres, là, pour...
C'est ça. Fait que là, à savoir comment est-ce qu'ils vont les incinérer, est-ce qu'ils vont les enterrer, est-ce qu'ils vont... Bon, peu importe.
Hey, taux de létalité de 50%.
Exact.
T'as une chance sur deux. Si tu l'as, t'as une chance sur deux de mourir. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien.
Mais l'Ebola du Zaïre, parce qu'il y a plusieurs souches, est pire. Ça peut jusqu'à 90%. Oh, okay. L'Ebola du Zaïre est plus fulgurante. Ouais. Mais l'Ebola du Zaïre, il y a quand même des vaccins qui ont été créés pour l'Ebola du Zaïre parce qu'elle était plus fulgurante et la plus populaire. Cette souche-là qui vient d'arriver est, je dirais, moins populaire. Par contre, il n'y a pas d'antidote. Le taux de survie est de 50 % au taux d'essai de 50 % au 90. En contrepartie, tu n'as pas de médicaments pour atténuer ces choses-là. Donc, ton système immunitaire doit passer au travers.
Ça, c'est la seule façon de t'en sortir, c'est ton système immunitaire.
Puis tu souhaites de bien t'hydrater puis d'avoir des gens qui vont donner support respiratoire. Donc, le temps que le virus passe en dedans de toi, il faut penser que le virus, les premiers symptômes peuvent arriver entre 2 et 21 jours après avoir été en contact avec une personne infectée. Donc, c'est pour ça que la quarantaine, pour eux, c'est 21 jours. Et à ce moment-là, quand les symptômes commencent, donc quelqu'un qui devient porteur et qui développe la maladie, au début, les 3-4 premiers jours, c'est des symptômes grippaux. Donc, fièvre, bonne fièvre, musculaire, tu vas avoir mal un peu partout, tu vas avoir des petites diarrhées, ces choses-là. Jusqu'à date, les gens passent bien. Après ça, tu as la phase digestive. La phase digestive, c'est là que tu vas te mettre à vomir. C'est là que tu vas te mettre à avoir des diarrhées. C'est là que tu vas avoir des segments, tu vas saigner du nez. Tu vas commencer à avoir des petits bleus partout, par rapport.
Pas le fun.
Et là, la phase tertiaire, la pire phase, c'est là que les hémorragies vont commencer. C'est là que tu vas avoir c'est plusieurs organes, là, c'est multi-organes. Là. Le foie, les reins vont arrêter de fonctionner. Et tu vas avoir une perte de plasma à l'interne, donc une hémorragie à l'interne. Et c'est là que la mort s'ensuit pas très longtemps. Donc la mort peut arriver entre le 6e jour et le 16e jour de la maladie. Donc, si on passe au travers de ce temps-là, généralement, on est chanceux. On a le système immunitaire à passer par-dessus et on va être capable de passer par-dessus les bas-là.
Marc, on fait une pause parce qu'on a d'autres sujets intéressants.
Absolument.
Reste avec nous.
Le retour de Radio X.
Que je qualifierais de gnochon.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Je vais même parler de quasi-délai.
Radio X.
Actualité scientifique.
La microbiologie, la chimie, la science en général.
Avec Marc Hamilton, microbiologiste.
Hey, merci aux auditeurs d'être là avec nous comme ça, 5h30. Dans le retour à la maison, ça a été mis à part là, ce qui se passe sur Champlain. C'est bien.
Oh oui, un petit lundi sur les routes.
Excellent. Monsieur Marc Hamilton, bloc numéro 2.
D'autres sujets.
D'autres sujets.
Ben oui.
À chaque fois, t'en as une dizaine, toi, mais faut en choisir
on
deux
manque
trois.
Tout le temps. On finit toujours par manquer de temps. Là. Bon, on va essayer de prendre les plus pertinents, là, du moins qui piquent la curiosité des gens.
Bon, je voyais encore sur le banc du Canadien.
Oui.
Puis là, je veux que tu me donnes le score de ce soir, c'est pas ça.
J'aimerais ça.
Je voyais sur le banc du Canadien en fin de semaine, puis on en a parlé, je pense, dans tes dernières visites, mais on n'a pas eu le temps de développer.
L'élaborer, oui.
C'est Newhook, hein, c'est ça? Mais c'est Alex Newhook.
Oui.
Qui
vient de Terre-Neuve en passant. Hein?
Ah oui?
Oui, c'est un gars de Terre-Neuve. Je te dirais...
Tu le connais?
Non, mais je connais sa provenance. Puis le Canadien, là, ont quand même deux joueurs qui représentent bien les Maritimes. T'as Noah Dobson, qui vient d'Île du Prince-Édouard. Mm. Puis t'as Alex Newhook, qui vient de Terre-Neuve. Fait qu'on a quand même une bonne représentation. Puis là-bas, c'est la coqueluche à Terre-Neuve. Là, tout le monde a le chandail de Newhook. Là,
c'est sûr.
Son ancien club est en train de se faire éliminer. Puis lui, il
en plus,
ben oui, c'est ça. Ben, Newhook, il a pris un petit produit, là, il a mis ça dans son gant. Là, puis là, il s'est passé ça en bout du nez. Là, puis là, on aurait dit qu'il était sur le 220.
Oui.
Ça, c'est du sel d'ammoniac.
Exact.
Est-ce que c'est une bonne affaire? Puis c'est permis, ça? C'est une drogue? C'est quoi, là?
Premièrement, c'est carrément prohibé pour tous les sports mineurs au Québec, incluant la Ligue junior majeure du Québec. Là, c'est prohibé. Parce que les sels d'ammoniac, ça donne aucun effet réel de performance. C'est pas comme quelqu'un qui prend de la caféine ou qui va, tu sais, un stimulant cardiaque qui fait que tu vas te crinquer quand tu vas prendre un stimulant, ou quelqu'un qui va prendre des amphétamines, tu sais, bien souvent, ils vont prendre des Sudafed ou des casse-grippe, là, des Tylenol sinus qui a un peu d'amphétamine dedans pour crinquer.
C'est
là.
La sécrétion d'hormones.
Sécrétion d'hormones, puis le côté cardiaque. Les sels d'ammoniac, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Premièrement, pour ceux
qui... déjà essayé, toi?
Une fois. Oh, OK, justement, parce qu'on les dit, hey...
Ça, ils l'ont ça.
On était d'une ligue d'adultes, là, on s'en foutait. Là,
les lutteurs qui prennent ça aussi.
Puis là, oui. Maintenant, tu prends ça, tu sais, puis l'effet que ça te fait quand tu n'as jamais pris, là, puis c'est ça qui fait que ça donne un hit, là, c'est que c'est tellement fort. Probablement que le sel d'ammoniac est un irritant des muqueuses. Et cette irritation-là, quand ça rentre dans vos sinus, ça devient très fort et ça donne l'effet de manger une claque d'en face. Quelqu'un qui n'a jamais pris, là, fait que ça fait bang. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est tellement fort, tu mets à pleurer des yeux. Deuxièmement, ta respiration commence à augmenter parce que hey, c'est fort. Puis ça donne un petit boost d'adrénaline très temporaire avec une pulsation cardiaque qui augmente. Et là, ça fait l'effet que ça te réveille. Mais ce réveil-là est très, très passager. Donc, ça dure très peu de temps. Donc, ça va te faire un petit kick comme ça.
Puis là, tu vas dire... Une minute, deux minutes?
À peine.
C'est très vite. Le fait que le sel va se dissiper après, parce que tu en prends comme une petite chauffe, les gens se réveillent, puis là, maintenant, ils vont faire leur chiffre. Après ça, trois, quatre chiffres après, ils vont prendre un autre sniff. Mais le corps humain ne crée pas d'addiction à ça. C'est juste parce que c'est mental de dire, quand je prends ça, ça me donne l'effet comme si je mangerais... Quelqu'un qui me donnerait une bonne une douche d'eau frette, une claque d'en face pour me réveiller, puis donner un petit kick d'adrénaline passager. Ça augmente ma pulsation cardiaque, ça augmente un petit peu ma respiration, mais c'est tout. Donc, c'est carrément une espèce d'effet placebo. Il faut penser aussi que les sels d'ammoniac, avant que les gens commencent à signifier ça pour le fun, on donnait ça à des gens qui sont évanouis, pour les réveiller. On leur faisait sentir, quelqu'un qui était évanoui, on ne parle pas quelqu'un qui est en crise de cœur, ces choses-là, quelqu'un qui est évanoui, on le faisait sentir, puis juste, c'est tellement fort au niveau de l'odeur, au niveau des muqueuses, que ça réveillait la personne. Donc, le but, c'est d'un réveil soudain par l'irritation des muqueuses. Et si on en prend trop, le problème, c'est que vous allez causer des problèmes. Vous allez brûler vos muqueuses nasales. Puis, à ce moment-là, c'est ça l'effet qui devient comme dangereux pour la santé. Ça devient toxique à la longue. Mais c'est sûr que je ne vois pas l'utilité de quelqu'un qui se met le nez là-dedans puis sniffe ça la journée longue. Là, je pense
les joueurs, c'est 3-4 fois par game. Là.
C'est malaisant. Puis il y a quelqu'un qui soulève son
vas-y, texto. Vas-y, lis-le, c'est bon. C'est très bon.
Il dit, y a juste moi qui ai un malaise de voir les joueurs de hockey sur le banc en train de sniffer un petit sachet de sel à la télé. Il me semble que ça ne donne pas un bon exemple pour nos jeunes. Puis il a totalement raison.
Puis on sait que, je ne sais pas pourquoi c'est autorisé dans la Ligue nationale, mais ben, c'est pas ça qui fait qu'un joueur va se mettre à scorer un but de plus. Ça, c'est pas ça qui
craint quand même.
C'est ta graine. Puis le problème, c'est quand tout le monde, il y a 2 millions de personnes qui regardent, puis ils voient un joueur en train de sniffer ça, tout le monde en voulant dire, hey, j'en veux moi aussi. Si les gars de l'international prennent ça, moi, je suis dans ma petite ligue de garage, je vais en prendre aussi.
Il y en a combien là, qui ont vu ça puis qui ont envie d'essayer?
Ben, la preuve, c'est que vous l'avez vu, crème. Puis ben, souvent, c'est 5 dixièmes de seconde.
Mais c'est-tu ça que les gens prennent? Ou je t'en avais parlé la dernière fois du Sudafed. Parce qu'il y en a plusieurs qui parlent du Sudafed. Là.
Sudafed, quelqu'un qui bon, est Sudafed ou les Tylenol Sinus, là, tout ce qui est médicaments pour dégager les voies respiratoires. Bien souvent, on prend ça quand on a un rhume, c'est dans le sinus, on va même mieux respirer. Il y en a dans le sirop. Donc, tous les décongestionnants, ils mettent une petite quantité d'un dérivé d'amphétamine qui fait que ça a vraiment un effet, oui, que ça va dégager tes voies respiratoires et ça va accélérer ton rythme cardiaque. Et bien souvent, au lieu de prendre la caféine, les gens vont prendre ça parce qu'ils préfèrent le kick d'un petit peu d'amphétamine que les gens qui prennent la caféine, parce que bien souvent, la caféine, les gens, faut en prendre 10-12 cafés, faire la différence. Et bien souvent, les gens vont tricher. Puis bien souvent, dans la Ligue nationale, bien, il y a beaucoup de gens qui ont déclaré avoir pris tellement de Sudafed quand ils jouent au hockey, des surdoses, qu'ils ont des problèmes cardiaques aujourd'hui. Parce que ça a créé des défaillances au niveau du choc nerveux, parce que ça a tellement surstimulé ton cœur pendant que tu faisais des efforts physiques, que ça a créé des dommages, que ces gens-là n'ont pas eu le choix de se faire suivre en cardiologie par la suite parce que ça avait causé comme une espèce de petite défibrillation au niveau des oreillettes parce que, imagine-toi, là,
palpitations,
ton corps, tu vas monter les palpitations à 180. Okay? Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand tu fais un sport, que tu as beaucoup d'efforts, le hockey, le jogging, tout ce que tu dois courir vite, là, mais du moins qui va augmenter tes pulsations très élevées, tu n'as pas besoin de stimulation cardiaque. Tu es déjà ouvert au bout. Quand tu joues au hockey et tu fais un chiffre de 30 secondes, back and forth, ouvert au bout, tu n'as pas besoin d'un Sudafed puis tu n'as pas besoin de caféine pour augmenter davantage ta charge cardiaque. Ton cœur est déjà à 100%.
Donc, le Sudafed, Max, ça n'a rien à voir avec le sel d'ammoniac.
Non, c'est deux choses complètement différentes.
Le sel d'ammoniac, donc, il est disponible sur le banc. Là. Il doit en avoir quelque part sur le banc, là.
Ben, j'imagine
les gars, moi, je l'ai vu, là.
Ça doit être... En tout cas, s'il y en a vite de même, c'est sûr que les joueurs sont libres de l'essayer. Il n'y a pas vraiment de restrictions dans la Ligue nationale.
Là-dessus.
Il y en a dans les ligues mineures au Québec. Tu ne verras jamais quelqu'un des ligues juniors majeures du Québec prendre ça. C'est prohibé. Parce que c'est pas nécessaire. C'est plus toxique que qu'est-ce que l'effet positif que ça va te donner. Pour savoir si les joueurs prennent de la caféine ou ils prennent des substances qui vont faire en sorte que mon cœur va battre plus vite, mais ça, probablement qu'ils en prennent déjà en parallèle. Probablement que les Sudafed, ils prennent à leur...
Ça, tu sniffes pas ça, là.
Non, c'est une pilule. Mais souvent,
c'est pour la congestion des sinus, dans le fond. Exact. Puis je sais qu'aux États-Unis, une fois, j'en avais besoin. C'était interdit la vente aux mineurs et surtout en vente derrière le comptoir, alors qu'ici... en vente libre.
Tu peux l'avoir en vente libre.
Tout à fait, d'Albilremicinus.
Tu as le vendrait.
Mais oui.
On est plus sévère ici au Québec.
Ouais. Ça dépend quelle sorte d'affaire. Hein?
On l'a pas pantoute.
On l'a pas pantoute. Mais comme des fois, les gens vont dans le sud. Ce qui m'avait surpris, je pense qu'aujourd'hui, ça a été réglementé, mais il y a quelques années, j'allais au Mexique, puis tu allais dans une pharmacie, puis tu pouvais toi-même acheter ton Viagra, acheter ton Levitra, acheter même des antibiotiques. Mmh. Moi, j'arrivais là, voyons, crime. L'azithromycine, de la clarithromycine, du cipro, puis t'achetais ça au pot, là. Puis les gens pouvaient... Puis ça, ça prend absolument une prescription. Puis quand t'allais au Mexique, je pense que c'est plus réglementé, mais que je vous dis là, ça date d'une dizaine d'années, là. T'allais à une pharmacie, là, puis tu pouvais t'intoxiquer bien d'aplomb là, avec des médicaments vente libre.
La République dominicaine, sur le resort, au petit dépanneur, ils vendaient du Viagra. Bon, comme ça, vente libre, let's go.
C'est ça. Fait qu'il y a des restrictions. Où est-ce qu'il est norme?
Puis Viagra, si tu suis pas la posologie, t'es dans le trouble.
Oui.
Je sais pas de la situation.
Non, mais on entend des histoires d'horreur, là.
Oui. Okay,
un jour, peut-être que j'aurais besoin, mais ben oui, là, je suis pas là.
C'est pris qu'un prix à piste pendant 4 jours de temps, il y a un problème, là.
Pensez 4 heures même, c'est dangereux, là. Attention.
Hey, il nous reste 5 minutes, Marc. Oui. Je veux pas qu'on fasse la morale aux gens, mais les barbecues s'en viennent.
Oui.
OK? Bon, on laisse traîner la viande sur le comptoir. Là, les températures, je lisais ce matin qu'il a passé 30 degrés. Tu peux pas laisser ça plus qu'une heure.
Mm-hmm.
C'est quoi tes consignes là-dessus? Je veux pas qu'on fasse la morale aux gens, mais quand même, là, la mayonnaise dans les salades ou...
Vous savez, il y a deux périodes de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'intoxication alimentaire. Tu as le temps des fêtes pendant que les gens font des potlucks puis tout le monde partage des mets puis ça traîne sur la table trop longtemps. Et l'été, où est-ce que là... Ou est-ce qu'on a plus de cas sévères? Pourquoi? Bien souvent, je vais vous donner une mise en situation. On invite des gens, la bière est bonne, fait 25-30 degrés dehors, on mange des burgers à soir. Fait que là, on prend du steak haché, qui déjà là est plus porteur de bactéries qu'un rôti, mettons. Et la raison pourquoi...
Parce qu'il
est manipulé. Il est surmanipulé. Quand on prend un rôti ou tu prends un steak ou un filet mignon, il a juste été coupé une fois, lui. Puis bien souvent, emballé tout après. Donc, très peu touché mécaniquement par un être humain, même par les mains, qui fait qu'à sa surface, des bactéries, il y en a beaucoup moins de chances de développer une infection à E. coli avec un steak que du steak haché. Pourquoi le steak haché? Le steak haché, bien souvent, c'est des restants de viande déjà manipulés qu'on met dans un robot, donc qui touche à plein de lames, qu'on se met les mains dedans, qu'on met en boule, qu'on emballe. Puis là, quand t'es rendu à la maison, ben, tu reprends la boule, t'as pas toujours les mains propres, tu fais ta petite boule, la boulette, tu mets ça sur un plateau, puis là, tu t'en vas dehors à 25-30 degrés. Là, tu jases avec tes chums. Là, pendant ce temps-là, ta viande, elle se fait frire au soleil.
Oui, bien, une petite mouche verte, là. Les petites mouches vertes.
Mais ça, ça m'inquiète pas, ça.
Hey?
Les petites mouches, ça m'inquiète pas.
Non, mais les mouches vertes.
Pas grave.
T'sais, les mouches à merde. Là.
Oui,
ah, oui.
Parce que dis-toi une chose.
Ah, excuse-moi, mais ils laissent les excréments là-dessus.
Ouais, les verres, là, les petites larmes.
Les verres, c'est pas ça qui va t'empoisonner. Oh. Ce qui va t'empoisonner, les bactéries, la E. coli ou la salmonelle, la listeria qui est dedans, j'ai plus peur de ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la petite boulette, le problème, c'est que bien souvent, quand les gens vont la faire cuire, ils ne la feront pas cuire à 100%.
Okay, dans le centre, elle reste rouge.
Là. Elle reste rouge. Donc, c'est important que... Bon, c'est pas tout le monde qui fait un burger qui met le thermomètre dedans, mais il faut aller chercher 74 degrés Celsius, au moins jusqu'au cœur. Il faut qu'elle ait atteint minimum 74 degrés Celsius. C'est sûr que ta boulette devient bien cuite à ce moment-là, peut-être qu'elle a moins de saveur, mais tu es certain que les œufs de tes petites...
Mouche verte,
il ne foutra rien. Puis après ça, tes bactéries vont mourir. Donc, ce qui fait que tu vas être safe. Mais le problème, c'est bien souvent, c'est des steaks, les gens ne les font pas cuire au complet parce qu'ils aiment ça, manger une boulette de steak haché ou est-ce que sans tes rougeâtres. Et là, à ce moment-là, c'est là que les bactéries vont attraper dedans. Donc, c'est ça, je te dis, c'est de laisser traîner une viande, surtout du steak haché, maximum une heure, OK, sortie du frigo. C'est ma recommandation. Si vous êtes pour attendre plus qu'une heure, bien, puis elle a attendu une heure, surtout s'il fait 25 degrés dehors, c'est un risque. Bon, c'est sûr que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il ne se passe rien, c'est que les bactéries, il faut penser qu'aux 20 minutes, ils se dupliquent. Donc, si tu attends une heure, là, les bactéries ont eu le temps de tripler leur quantité. Donc, les quantités sont très énormes. Et là, tu dis, il faut que je la fasse bien cuire. Mais un autre signe qui est important quand on mange la viande, surtout la viande crue ou du steak haché, regardez l'odeur qu'elle a. Regardez si elle sent pas bonne. regardez si la texture devient visqueuse. Donc, si vous avez une odeur, ouf, ça sent pas vraiment déjà sentir la putréfaction.
Ça devient brune, là, la viande rouge, elle devient brune.
C'est pas si pire, ça, le brunard, c'est pas ça. C'est l'odeur et aussi la viscosité. Si vous touchez la viande, ouais, commence à être visqueuse, elle est plus bonne à manger. Puis si vous mangez une viande qui a de la putrécine dedans, parce que ça est trop fort, vous ne serez pas incommodé par les bactéries, même si vous l'avez bien cuite. La putrécine qui est dans la viande va vous donner une intolérance, pas une indigestion quand même. Vous allez vomir malgré tout, parce que c'est de la putrécine qui est une enzyme qui biodégrade naturellement la viande lorsque celle-ci est trop longtemps à température pièce.
Pas sûr qu'à ce soir, on va manger un cheeseburger, moi.
Bien, je vous le dis.
Ça donne moins le goût, hein.
Lavez-vous les mains, manipulez le moins possible.
Je suis content que ce soit un lundi, pas un vendredi, là. On aime ça, les burgers, la fin de semaine, là.
La morale, c'est l'histoire. Laissez pas traîner vos burgers longtemps. Puis les steaks, comme quelqu'un va faire un kamado, va faire un tomahawk, c'est moins pire, ça.
Okay.
Parce que les bactéries sont à surface, sont pas dedans. Et bien souvent, même si vous mangez saignant le tomahawk, on sait que la surface va avoir eu 74 degrés facilement. Donc, ça m'inquiète moins. C'est surtout les viandes hachées parce que le sang peut être contaminé. Ben
ouais. Hey, c'est toujours intéressant, Marc. Même si tu...
Tellement.
Là, je vais tout faire sauf manger un cheeseburger.
Ah, moi, j'en mange. J'ai pas de problème.
Salut, Marc.
OK. Bye.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.